Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous avez 20, 40 ou 60 ans, vous ne connaîtrez pas notre invité pour les mêmes raisons. Certains verront le visage de l'actrice aux côtés de Delon dans Le Toubib ou de Lanvin dans Tir groupé. D'autres celui de la chanteuse aux côtés de Woolsey dans Le Tube de l'été 84, Désir Désir. D'autres encore verront celui de la comédienne sur les planches dans un atelier pour deux au théâtre de Passy. D'autres enfin celui de la militante infatigable de la cause tibétaine. Mais peut-être, peut-être, vous revient-il aussi en mémoire la série Pause Café et son rôle mythique d'assistante sociale, Joëlle Mazard. Elle a souvent incarné des personnages doux et bienveillants. Ses proches la disent d'ailleurs rayonnante dans la vie. Pourtant, elle n'a pas été épargnée par les épreuves. Des drames qu'elle confie, sans tabou, dans son livre « Le présent est mon refuge », mais sur lesquels elle pose aujourd'hui un regard serein. Car sa grande quête, c'est l'harmonie. Et elle essaie de nous aider à la chercher aussi, à la trouver surtout. Mais comment trouver l'harmonie dans ces temps d'inquiétudes sociales, climatiques, géopolitiques? Le présent, juste l'instant présent, est-il notre seule valeur sûre? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue à vous, Véronique Jeannot. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais avec
ici,
plaisir.
Au Sénat, dans ce dôme tournant. Je commence tout de suite, effectivement, par les questions un petit peu métaphysiques, parce qu'elles sont quand même au cœur de votre vie depuis des années. Et puis au cœur de ce livre que vous publiez chez XO Éditions, Le présent est mon refuge. Est-ce que la clé pour traverser les crises que nous traversons aujourd'hui, c'est ça, c'est vivre l'instant présent? Est-ce
que c'est... Ah, je pense que c'est... extrêmement important, urgentissime de comprendre l'importance vraiment de l'instant présent, parce que c'est le seul temps qui nous appartient. Mmh. Le passé, c'est passé, on ne peut plus rien y faire. Et le futur dépendra éventuellement du présent qu'on est en train de vivre, la façon dont on va vivre ce présent. Mais tellement de gens sont ou bien dans la nostalgie d'un passé qui ne reviendra pas, ou dans une projection d'un futur totalement hypothétique, et sans être vraiment conscient de l'instant et de ce qu'ils sont en train de vivre. Les gens qui vivent au présent, conscients en fait de ce qui se passe réellement, profondément en eux, sont très rares.
Ici et maintenant.
En fait. Ici et maintenant, oui, c'est ma devise. Mais...
C'est intéressant.
Mais c'est assez rare.
Parce que vous réfutez le mot de crise. Vous dites, on ne vit pas une période de crise, on vit un moment de bascule. J'ai trouvé ça très fort. On bascule vers quoi, d'après vous?
On bascule vers un autre monde. Pour moi, c'est absolument pas une crise. Je le disais déjà d'ailleurs dans mon précédent livre. Et là, c'est en plus une certitude, une conviction profonde. Les gens qui disent on vit une crise et qui pensent qu'on reviendra à ce qu'on a vécu même il y a 20 ans, c'est illusoire. On peut pas en même temps parler de l'importance de l'intelligence artificielle qui arrive, mais alors plus qu'à grands pas dans nos vies, et penser qu'on de toute façon le monde redeviendra tel qu'il était. C'est impossible. Il y a les influenceurs, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui va supprimer beaucoup de postes, beaucoup de métiers. Je suis pas sûre qu'on s'en rende compte à quel point on est déjà sous l'influence de l'IA, de l'intelligence artificielle.
Vous avez l'impression qu'on bascule vers quelque chose de plus sombre ou pas? Ou vous n'êtes pas spécialement inquiète?
C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très positif, en fait, d'optimiste. Donc, je veux pas me dire qu'on bascule vers du noir. Je veux croire que la lumière viendra. Mais je pense qu'on va passer une époque difficile.
Tout ce que vous dites là, cette philosophie de vie, vous la tenez du bouddhisme, qui est votre croyance depuis plus de 40 ans. Vous vous êtes tourné vers la spiritualité à l'âge de 22 ans, lorsqu'on vous a diagnostiqué un cancer de l'utérus. Ma vie a alors perdu tout son sens, disiez-vous. Je n'avais plus de repères. Il fallait s'adosser à d'autres piliers. Et grâce à la lecture du livre tibétain de la vie et de la mort, vous dites « J'ai appris à transformer l'adversité en leçon de vie ». Ça veut dire que finalement, ce sont les grosses épreuves de la vie qui nous font aussi avancer, progresser, grandir.
Mais bien sûr, on ne peut pas dire « oui, je souhaite qu'il souffre et tout ». Non, mais pourtant, c'est, la souffrance vous confronte à une autre dimension, en fait, de la vie, et se dire comment est-ce qu'on passe derrière ce mur. Parce que la souffrance peut parfois se présenter comme un mur qu'on ne sait pas comment franchir.
Et, ouais.
Et c'est vrai que la spiritualité a été, moi, ma carte, mon joker. Mmh. Quand on parle la langue du cœur, qu'on l'a apprise, qu'on parle la langue de la spiritualité, on ne l'oublie pas. Quand on a fait ce chemin de la conscience, on ne l'oublie pas. Mmh. Et même si quelquefois on prend des petits chemins de traverse, elle revient forcément avec vous, elle fait partie de vous.
Ce n'était pas si simple à l'époque de parler de spiritualité, de religion, de foi. Parler de votre spiritualité ne vous a même pas toujours servi dans votre carrière, cela vous a été reproché. Tes histoires avec le Dalaï Lama, tu arrêtes, vous aurez dit, Étienne Moujotte, ancien patron de TF1, et vous dites, j'ai payé mon engagement spirituel, c'était considéré comme une secte. Des gens vous ont tourné le dos à cause, ou grave, je ne sais pas, de cette spiritualité.
Des gens, en tout cas à l'époque TF1, oui, ça c'est sûr. Et Étienne Moujotte en l'occurrence, puisqu'à l'époque qui m'avait dit devant témoin, je ne citerai pas ce témoin, on fera la rentrée ensemble, mais tes histoires avec le Dalaï Lama, tu arrêtes. Je sais, je me souviens tellement de ces mots, tellement ça m'a marqué, et je lui dis, mais enfin Étienne, toi qui es un ancien journaliste, comment tu peux me dire tes histoires avec le Dalaï Lama, alors qu'on parle quand même d'un génocide culturel, puisqu'on ne va pas parler d'un génocide. Et pourtant, et de tout ce qui se passe avec un peuple en exil depuis 50 ans, comment tu peux me parler d'histoire avec le Dalaï Lama ?
Qu'est-ce qu'il vous a répondu ?
C'était violent. Il m'a rien répondu et je suis partie. Et j'ai pas fait la rentrée avec les femmes.
Aujourd'hui, c'est quand même plus simple, non, de parler de spiritualité. Vous sentez que l'époque est plus ouverte, finalement, à ça ?
Oui, je pense malgré tout qu'il y a une prise de conscience dans la méditation, dans une autre façon de vivre, c'est-à-dire dans un calme où on s'entend. Parce qu'on vit une époque tellement mouvementée à tous les niveaux qu'on est tellement pressé. On n'est pas sur le rythme normal, je dirais, d'un être humain. On n'est pas fait pour aller aussi vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Regardez tout ce qui s'est passé en 30 ans de vie. C'est trop vite pour nous. Donc on est dans une vitesse qui n'est pas la nôtre, dans laquelle on a du mal à trouver nos propres repères, ceux qui sont les repères de notre réel individu.
Quand vous apprenez que vous souffrez d'un cancer de l'utérus, vous apprenez aussi que vous ne pourrez pas être enceinte et vous dites, étrangement, le plus dramatique n'était pas lié au risque de mourir, mais de ne pouvoir jamais réaliser mon rêve de maternité depuis mon adolescence. Mais l'ouverture à la spiritualité m'a aidée à comprendre que la vie d'une femme ne s'arrêtait pas à ça, que je pouvais construire une autre maison, d'autres murs, mettre d'autres couleurs à ma vie. Et ça m'a fait penser à ce discours féministe aujourd'hui qui est de dire la vie d'une femme ne passe pas que par la maternité. Et ça m'a fait penser à ce que vous avez
dit. Mais heureusement d'ailleurs, parce que la fertilité est quand même en danger en ce moment. C'est de plus en plus difficile pour une femme, pour un homme, de faire des enfants. Il y a un vrai, vrai problème de stérilité. Et donc, il faut bien prendre conscience que la vie d'une femme ne s'arrête pas là. Je crois qu'il y a la vie d'une femme et il y a l'essence de la femme. Et moi, j'adore ce mot qu'il ne faut pas oublier. L'essence féminine. Elle est porteuse de tellement de choses. Elle est porteuse du sens inné, de la compassion, de l'écoute, de la patience, de l'acceptation aussi d'une forme de souffrance. Parce que dans les gènes de la femme, il y a l'acceptation de la souffrance quand elle va prolonger la vie. Quand elle va porter déjà l'inconnu en elle, où elle accepte quelque part que son corps soit modifié. Elle va souffrir, et depuis des centaines d'années, les souffrances de la mise au monde, et c'est une acceptation tacite. Donc déjà, la femme porte ça en elle, l'acceptation de cette forme de souffrance, ce que ne porte pas du tout l'homme. Et je pense que la femme est beaucoup plus forte profondément que l'homme. D'ailleurs, j'ai pu le vérifier plein de fois. La femme est beaucoup plus forte face à la souffrance que l'homme. Je m'y perds les pédales.
Vous vous sentez féministe ?
Oui, mais je me sens pas... la femme, non. J'aime la femme forte dans sa féminité propre, dans sa féminité profonde, dans son essence féminine.
Mais ce n'est pas un combat.
Mais le côté où la femme devient un mec pour se prouver que la femme est forte, non.
On va reprendre un peu le fil de votre histoire. Vous êtes née en Haute-Savoie. Votre famille n'était pas du tout dans l'audiovisuel, pas dans le cinéma. Votre mère décide, quand vous avez 14 ans, hein, je crois, de vous inscrire dans l'annuaire du cinéma.
Est-ce que vous avez su pourquoi ? Est-ce qu'elle avait envie de vous voir briller ?
Non, ce qui est très bien d'ailleurs, c'était pas une envie de voir sa fille à l'écran et tout, pas du tout. Ce qui est une chance parce que j'ai vu depuis que je fais ce métier beaucoup de parents qui veulent absolument mettre leurs enfants devant la caméra et tout. Mmh. Et j'ai vu des petits monstres quand même, débouler à l'époque de Pause Café par exemple, où je voyais des parents qui faisaient la queue pour que leurs enfants tout jeunes viennent et qui avaient déjà le melon, quoi. J'ai vu des gamins à 7-8 ans qui avaient déjà le melon, comme on dit. Et moi, ça, franchement, ça me fait peur, quoi, parce qu'ils sont déjà pas plus dans la vie.
Mais votre mère ne voulait pas faire de
pas du tout. Star. En fait, maman a travaillé à une époque de sa vie dans la publicité. Et elle avait sa meilleure amie qui s'appelait Joson, qui était peintre aussi. Et c'est à elle, en fait, que je dois être comédienne aujourd'hui. D'accord. Parce que elle avait pris des photos de moi et une de mes photos était restée sur sa cheminée.
Ouais.
Et elle avait un ami metteur en scène qui a vu ma photo, qui a dit « Oh, elle a une bouille, cette gamine, elle devrait faire du cinéma. » Et c'est comme ça, petit à petit, comme quoi, quand les choses sont écrites, il y a toujours des petites... Pour ça, moi, j'écoute beaucoup les signes.
Et votre bouille, comme vous dites, elle a été repérée par Cécile Aubry, réalisatrice renommée.
Mais quand elle a...
Qui vous voit dans cet annuaire, justement.
Sur cet annuaire du cinéma. Ouais. Mais ma photo n'y était plus, en fait. Parce qu'on n'avait pas renouvelé. Et pendant un an, il s'est passé un truc avec un metteur en scène canadien. On a envoyé une photo, c'est tombé dans l'oubli. Et du coup, quand on nous a demandé d'envoyer une photo pour justement le feuilleton de Cécile Aubry, en fait, on est venu directement à Paris. Mmh. On a eu le rendez-vous sur Paris et il s'est trouvé que j'étais que j'étais en fait le fantasme de Cécile Aubry. J'étais le rêve de son Isabelle.
Et avec le recul, est-ce que vous diriez que c'était un peu jeune pour intégrer le monde de l'audiovisuel ou pas ?
Alors, dans l'absolu, certainement. Mmh. Mais j'avais la chance d'être très équilibrée parce que je vivais à la campagne, enfin en province en tout cas, à Annecy, que je faisais beaucoup de sport, que j'étais plutôt dans le monde de animal, je dirais, et les sports d'équipe avec le handball et l'animal avec avec mon cheval, je faisais du tennis, je faisais ce handball, ça m'équilibrait énormément. D'accord. J'avais des parents qui étaient pas du tout là-dedans et qui n'ont a changé d'un iota quand j'ai commencé ce métier. D'accord. Donc tout ça fait que je suis restée parfaitement équilibrée. C'est la façon dont on est entouré qui joue beaucoup. Donc,
mais alors,
dans
quel
mon cas, ça n'a pas été trop tôt.
Sur ce qui se passe en ce moment, depuis les révélations de Judith Godrèche, on s'interroge beaucoup sur ces très jeunes filles qui intègrent le milieu du cinéma, de l'audiovisuel, et on se demande s'il n'aurait pas arrivé quelque chose et si on n'a pas été tous un peu aveugles devant cette notoriété ou cette joie apparente qui, en fait, cachait des choses terribles derrière. Quel regard vous portez, vous qui avez commencé si jeune, très jeune, vous aussi.
Oui, j'ai commencé. J'ai eu 14 ans sur mon, 15 ans sur mon premier tournage.
Ça vous parle quand elle parle de ce milieu qui ne s'est pas bien comporté avec les
moi, jeunes. J'ai juste ressenti un peu de solitude parce que je tournais pas tous les jours et que c'était la première fois que je quittais, en fait, le cocon familial. Ouais, ouais. Donc, ça a été un petit peu douloureux, mais j'étais chez les cousins. J'habitais chez les cousins de Cécile Aubry et voilà, qui ont été, mais qui étaient une famille de médecins. C'est là aussi que je me suis rendu compte que les médecins sont pas non plus tendre dans leur... Et que j'ai beaucoup souffert de ça, moi qui étais dans une famille extrêmement affectueuse, en fait, et tendre. Donc j'ai souffert de ça. D'ailleurs, j'avais tellement envie qu'on s'occupe de moi. J'avais envie de dire, mais oh, je suis là, j'existe. Et j'ai fugué. Et quand je suis revenue, je suis comme une fleur en disant, ah mais non, mais j'ai pas prévenu, mais je suis allée faire un footing. En fait, non, j'avais juste besoin de sentir qu'on s'occupe de moi parce que...
Et alors le fait de mettre des espèces de coach pour les jeunes enfants, les jeunes acteurs sur les plateaux de tournage aujourd'hui.
Oui, c'est une bonne chose.
Ouais, vous pensez que c'est une bonne idée?
C'est une bonne chose parce que il y a de quoi péter un boulon parce que tout d'un coup vous êtes, on s'occupe de vous, vous êtes un peu la reine des abeilles et il faut quelqu'un qui n'encourage pas juste ça, quelqu'un qui soit justement très équilibré et qui vous donne de l'affection, qui vous entoure. C'est pour ça que c'était très bien à l'époque. Moi, je me souviens quand je suis partie faire Paul et Virginie, j'avais 16 ans et ma mère m'a accompagnée. Il fallait que quelqu'un de la famille vous accompagne. Il y avait l'autorisation de pour mineurs de sortie du territoire métropolitain. Et ben, je trouve ça très bien parce qu'en fait, on n'est pas mûr pour s'expatrier comme ça et pour vivre la notoriété, mais aussi la solitude, l'absence de famille. Et c'est tôt pour quitter une ambiance familiale.
Oui, une sécurité
équilibrante.
Et à la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, vous, quel conseil donneriez-vous à la petite fille qui s'apprête à se lancer dans la vie ? Qu'est-ce que vous lui diriez pour la prévenir de quelque chose, l'avertir de quelque chose ?
Ne te perds pas. Va à la recherche de qui tu es, pas seulement de ce qu'on te fait faire. Trouve-toi, trouve ton être profond, parce que c'est là qu'il y aura ta force, nulle part ailleurs. Et c'est là qu'on trouve son courage, son vrai courage. Pas celui qu'on vous dit, mais ouais, tu peux y aller, tu peux y aller. Non, faut avoir nourri à l'intérieur pour tenir le coup.
Pendant plusieurs années, les pièces, les films, les séries vont s'enchaîner. Le tournant, c'est 1981. Avec Pause Café, première saison d'une série qui va faire un carton et booster votre notoriété au niveau national. Vous interprétez le rôle de Joëlle Mazard. Elle est donc assistante sociale.
Et j'ai inspiré tellement.
Mais justement, c'est ça qui est super intéressant. À propos de cette série, vous dites, Pause Café a été un phénomène social, un rendez-vous, une rencontre incroyable avec le public. Cela pourrait ressortir aujourd'hui. C'était très avant-gardiste, dites-vous. Joëlle Mazard donnait de l'espoir. On manque aujourd'hui d'incarnation qui fédère et qui donne de l'espoir ou pas?
Bien sûr.
Ouais.
On manque tellement d'espoir aujourd'hui. On manque. Puis regardez, bon, voilà, il y a beaucoup de films de science-fiction, de plus en plus. Mmh. D'ailleurs, le futur n'est pas forcément réjouissant dans ces films, et loin de là. Et il y a les polars. Mmh. Mais quand il y a des films qui défendent des belles valeurs humaines profondes, il y en a pas beaucoup aujourd'hui quand même.
Alors j'ai quand même une archive à vous proposer.
Oui.
La voici. Je vous la mets entre les mains et puis je vais la décrire pour les gens qui nous écoutent. C'est la photo d'une des nombreuses manifestations organisées par les assistantes sociales, figurez-vous, entre 1990 et 1992.
Mais vous savez, j'ai reçu il y a pas longtemps un message, un mail d'une assistante sociale qui me dit mais aujourd'hui on nous oublie. Aujourd'hui on se rend pas compte de l'importance qu'on a et c'est vrai. Mais mon Dieu, mais moi je lance un SOS pour elle.
C'est déjà le coup de gueule qu'elle poussait à l'époque. Il y avait écrit sur leur pancarte. Les AS vont craquer, assistantes sociales. Elles revendiquaient la reconnaissance d'un bac plus 3 et non d'un bac plus 2 à l'époque. Elles ont fini par obtenir gain de cause, mais 30 ans plus tard, pas du tout à l'issue de ce mouvement-là qui a quand même duré 2 ans. Et j'ai trouvé intéressant que ce mouvement intervienne juste après la diffusion du troisième volet de Pause Café dans lequel vous étiez.
Mais je pense que ça leur a donné aussi de la force.
Mais c'est la question que j'allais vous poser.
Je pense, parce qu'elles ont vu le travail que pouvait faire Pause Café, l'importance, et enfin l'importance reconnue d'une assistante sociale dans un lycée, comme il y en a dans les hôpitaux. Il y en a. Mais c'est capital, parce que c'est une écoute que n'ont pas le temps aujourd'hui de donner les médecins. Les médecins aujourd'hui, ils sont pris dans un tel rythme, il n'y en a presque plus. Les médecins généralistes disparaissent les uns derrière les autres. Il faut 2 mois, 3 mois pour avoir un rendez-vous chez un médecin. La médecine est en danger, les hôpitaux sont en danger. Notre système médical est en grand danger.
Donc là, vous lancez un appel aussi pour
l'éducation est en danger. Mais bien sûr que je lance un appel.
Vous avez créé des vocations.
C'est comme les infirmières. Pour moi, les infirmières, ce sont des anges. Quand on sait le travail qu'elles font, au moment le plus difficile que vous pouvez passer, c'est-à-dire dans la maladie, où tout d'un coup vous vous sentez seul, vous perdez vos amis, vous êtes le plus vulnérable, vous perdez votre métier, vous perdez votre santé. Donc vous perdez vos repères. Mmh. Et là, il y a des infirmières. Alors il y en a des plus ou moins attentives. Mais quand
avec
vous
le
voyez
qu'elles
le travail, l'engagement qu'elles ont, ce qu'elles sont payées et la reconnaissance qu'elles ont, mais moi, ça me...
Vous avez créé des vocations?
Ah oui, plein, mais plein. Le nombre de gens, hommes et femmes d'ailleurs, qui viennent me voir et qui me disent, encore hier, au théâtre, où je joue justement un atelier pour deux, au théâtre de Passy, il y a une dame qui est encore venue, me dit, vous savez, vous connaissez mon métier? Je dis, non, dites-le-moi. J'ai dit, je suis assistante sociale, et ça, c'est vous. Et c'est tellement formidable et je vous remercie. Et il y a plein de gens qui sont venus me dire ça. Comme il y a plein de gens aussi qui sont venus me dire merci. Et ça a été extraordinaire.
Merci
de gens,
quoi
d'avoir fait exister Pause Café, de l'avoir incarné comme ça et qu'il y a des gens dont le rendez-vous avec Pause Café était vital. Il y a des gens que ça a sauvé du suicide. Mais vraiment. Et quand on m'a dit ça, quand ils sont venus me dire ça, ils me disent, vous savez, si j'ai retardé ce moment-là, si je ne l'ai pas fait, c'est grâce à vous. Jamais, au moment où je tournais Pause Café, je n'aurais pu imaginer
ça. Bien sûr.
Mais j'ai eu la conscience après, en fait. Moi, j'incarnais avec bonheur Pause Café parce que je trouvais que c'était un personnage formidable, que je vivais des choses, que je découvrais des choses hyper importantes dont j'avais pas conscience au moment où je les tournais, qui étaient même aux prémices et qui aujourd'hui existent, puissance 10, malheureusement. Il y a les mêmes problématiques, mais puissance 10 avec une violence accrue énorme.
Elle aurait des sacrés dossiers aujourd'hui, Joëlle Mazard aussi.
Ah, c'est Ah, c'est sûr. Mais moi, j'aimerais, oui, j'aimerais reprendre Pause Café.
C'est vrai ?
Bien sûr, j'adorerais. J'adorerais.
Vous êtes en contact avec des producteurs,
non.
des diffuseurs ?
Non.
C'est un appel
non.
que vous lancez ?
C'est un appel.
C'est vrai ? Vous avez envie de reprendre ce rôle ?
Oui, j'adorerais. Parce que j'aime. Maintenant, je le jouerai en plus en conscience.
Ouais, avec une conscience des choses bien plus fortes.
Ouais.
L'appel au retour de Pause Café, c'est une super, super idée. J'ai des photos à vous proposer, Véronique Jeannot. Voici la première photo. Il s'agit évidemment d'Alain Delon.
Alain Delon.
Un acteur qui a beaucoup compté pour vous parce
bien
que
sûr.
Lorsque vous êtes sur le tournage du Toubib avec lui, personne ne lui dit alors que vous souffrez d'un cancer et il prend mal votre silence au début. Puis il se met à veiller sur vous avec beaucoup de pudeur. C'est ce que vous avez ensuite raconté. Et vous avez gardé une relation très profonde avec lui pendant des années.
Alors, moi, je cultive la gratitude qui est une émotion que je trouve tellement importante. Quand on rencontre quelqu'un qui a une telle notoriété, une telle prestance, une telle aura que Delon, et qu'on découvre ses qualités, parce que voilà, on parlait après de Delon, de son côté, mégalo et tout, mais c'est quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui a une générosité. Alors, où il aime ou il n'aime pas, il vaut mieux être dans ceux qu'il aime, mais il ne peut pas laisser indifférent. Pareil, de la même façon, on l'aime ou on ne l'aime pas.
Vous avez gardé contact avec lui ?
Ben, là, en ce moment, c'est très difficile de garder contact. Ouais. Quand on s'était vu il y a peut-être 2 ans pour la dernière fois, et à chaque fois, on se prend dans les bras, il y a un profond attachement, vraiment. Et moi, je l'adore. Et ce qu'il est en train de vivre en ce moment, avec la pudeur que j'ai pu lui connaître, et qu'il soit en ce moment livré en pâture, que son image, son histoire soit livrée en pâture, et sa famille, comme ça, se déchire, et, au nom de l'héritage, de l'argent, et dans ce côté médiatique, ça doit être d'une... J'espère que quelque part, il a plus tous ses neurones en place pour vivre ça. Parce que c'est le connaissance, ça doit être tellement douloureux que je voudrais quelque part qu'il arrive à s'isoler d'une façon ou d'une autre, de tout ça qui est un peu lamentable.
Une deuxième photo, il s'agit de Line Renaud, que vous avez bien connue.
Quelle femme.
Vous avez joué avec elle au théâtre, dans Plein Feu, en 91.
Dans Plein Feu.
Dans son autobiographie Merci la vie, elle révèle qu'elle a tout prévu pour sa fin de vie. Si je dois souffrir, dit-elle, je veux sortir tout de suite. C'est mon ultime liberté, choisir sa mort. On a choisi sa vie, on doit pouvoir choisir sa mort et on se dirige vers une loi, vers l'aide active.
Il est temps.
Ouais, vous êtes...
Ah oui, je suis pour, mais alors pour à 100%, sans restriction. À partir du moment où on est encore, où on est conscient de ce qui nous arrive, on sait que de toute façon, c'est sans espoir et on y va, et qu'on est serein et que notre vie a été belle et que et on sait qu'on va aller que vers de plus en plus de souffrance pour soi et comme pour les autres, qu'on nous laisse cette dignité, cette décence. Je veux dire, je trouve ça important de partir dans sa dignité avant de devenir une loque et de que les autres et que vos proches gardent cette image. Bah oui, moi je suis mais alors de 100% pour. Et ce que vit Françoise Hardy en ce moment alors qu'elle demande qu'on la laisse partir, je comprends pas qu'on la laisse pas partir. C'est inhumain.
Une dernière photo à vous présenter, il s'agit de l'acteur Pierre Ninet.
Formidable.
Il a décidé de partir vivre loin de la ville, il a posé ses valises à la campagne il y a quelques temps.
Moi aussi.
Et justement, c'est un choix que vous avez fait, alors vous, ça fait plus longtemps, pour être au plus près de la nature que vous aimez tant. Est-ce que c'est aussi un peu pour échapper à cette société qui ne vous plaît plus, qui ne vous correspond plus? Est-ce que c'est vivre comme un ermite?
Non, pas du
tout. Non, pas du tout.
C'est pas
une fuite.
Non. Vivre en ermite, c'est c'est s'échapper du monde. C'est une démission. C'est une fuite. Et non, moi la nature, c'est une force. Donc pour mieux affronter, au contraire, le quotidien ou les choses ou la société aussi, parce que moi quand je travaille, je suis obligée d'être
la preuve.
Voilà. Et puis, j'ai des messages à porter. Donc je suis en plein dans la société pour porter au mieux des messages. Mais quand vous me demandiez aussi ce qui faisait une force aussi, quand on est la nature en fait partie. Moi, quand j'ai été très malade, je me souviens avoir demandé à la terre de me garder. La prière, je l'ai faite à la terre. Et elle m'a écoutée. Et je la remercie tous les jours. Et je suis très malheureuse de voir ce qu'on fait à la nature. Et je milite aussi beaucoup chaque fois que je peux pour l'écologie, pour qu'on la préserve, pour qu'on la respecte. Le mot respect est un terme qui me tient énormément à cœur. Je trouve qu'aujourd'hui, entre autres dans cette société, le nom de respect, le mot de respect est bafoué, n'a plus de raison d'être, ne vit plus assez, nulle part. On ne respecte plus les gens âgés, on ne respecte plus les valeurs sur lesquelles je trouve qu'il est important de se construire en tant qu'être humain. On ne respecte pas la nature, on ne respecte plus grand-chose. Et pourtant, je trouve qu'une société qui est digne de ce nom se construit sur le respect. C'est très important pour
Alors
moi.
Alors c'est marrant, c'est une vertu, le respect, mais j'en ai quatre autres à vous proposer, parce que vous l'aurez remarqué, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Alors il n'y a pas le respect, mais il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Alors, en plus du respect, est-ce qu'il y en aurait une qui vous caractériserait?
Toutes. Je dirais toutes, même si, la sagesse...
Ouais.
Je la cultive, je fais de mon mieux. L'éloquence, c'est mon métier. Et
la prudence et la justice.
La prudence, indispensable, parce que si on va comme un chien fou, on peut se prendre des claques qu'on aurait pu éviter. Et l'autre,
la justice.
Et la justice, alors ça, l'injustice est quelque chose qui me fait sortir de moi. Ça peut me faire péter les plombs, l'injustice. Donc oui, la justice est quelque chose qui me tient à cœur.
Merci Véronique Jeannot d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Mais avec grand plaisir. Regard.
Merci beaucoup de vous être livrée comme vous l'avez fait dans cet entretien. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission Entretien retrouvée évidemment en podcast, vous le savez maintenant. Merci, au revoir.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.